Quelle surprise, Monseigneur, de vous recevoir au milieu de nous aujourd'hui. Nous n'attendions pas une telle joie. C'est avec grande reconnaissance qu'au nom de toutes nos communautés des Visitations France Nord et France Sud que nous vous recevons au milieu de nous. C'est peu vous dire que nous sommes reconnaissantes, Monseigneur, de nous consacrer votre temps d'évêque. C'est dire à quel point l'exercice de la synodalité vous tient à cœur. Vous qui avez fait partie des quatre évêques français à avoir été choisis pour en vivre les deux sessions à Rome. Osons dire aussi que plus profondément, cela montre le prix que vous attachez à la vie religieuse, si humble soit-elle dans l'immense corps ecclésial, et plus spécialement notre ordre de la Visitation. Une petite question pour commencer. Avez-vous déjà ressenti le courant de prière venant de toutes nos communautés pour soutenir votre mission pastorale, y compris les sœurs que nous ne verrons pas aujourd'hui, nos sœurs du Congo qui ne peuvent recevoir Internet pour des opérations longues, nos sœurs de la Pocatière, nos sœurs de Waldron et une communauté qui vit aujourd'hui la souffrance de sa fermeture, bien qu'il y ait présente des sœurs, si je ne me trompe, avoir aperçu déjà deux sœurs présentes. De la part de toutes, un profond merci, Père évêque.
Est-ce que chacun a bien entendu notre sœur ? Donc, merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez en me demandant d'intervenir auprès de vous sur cette dynamique de notre Église, très fortement soutenue par le pape François, que nous portons d'ailleurs dans notre prière. Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes, mais il reste fragilisé, bien sûr, dans sa santé, comme un certain nombre d'entre nous. Donc, nous sommes en communion avec lui, et lui est en communion avec nous. Pour commencer, je vous livrerai une des prières du synode, qui dit bien l'esprit, il y en a eu plusieurs. Celle-ci est du pape François du 9 octobre 2021. Elle dit ceci, donc elle s'adresse à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres. Préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. Donc voilà, je pense que cette prière dit assez bien la tonalité de ce que j'ai pu avoir la grâce de vivre pendant deux sessions synodales, donc deux mois entiers, le dernier mois d'octobre de cette année 2024 et puis le mois d'octobre de l'année 2023. Et bien sûr, ce que nous avons vécu là est une expérience d'Église. Alors, comment la caractériser? Plusieurs instances m'ont demandé, avec d'autres participants au synode, avec les quatre évêques français que nous étions, mais aussi une responsable de formation du diocèse de Rodez, Anne Ferrand, qui avait été désignée aussi par l'Église de France pour la représenter dans cette assemblée synodale. Donc on nous demandait, par exemple, à l'Institut Loyola, au cours d'une soirée, le retour du synode, on nous demandait quels mots nous voudrions choisir pour caractériser cette expérience. Alors, bien sûr, nous avons eu des prises de parole différentes. Pour ma part, j'avais retenu ce mot qui est repris dans cette prière du pape François, « Ouvre nos cœurs à l'écoute ». Le mot « écoute » pour moi est majeur dans cette expérience synodale qui m'a été donnée de vivre. Et je rajouterais volontiers un deuxième mot associé à ce mot d'écoute, le mot de conversion, c'est-à-dire une véritable conversion à l'écoute dans laquelle notre Église, avec à sa tête le pape François, a voulu nous engager. Alors bien sûr, l'écoute, vous en avez l'expérience, c'est une notion fondamentale dans la culture judéo-chrétienne et particulièrement dans la vie monastique ou la vie contemplative. Déjà depuis le Premier Testament, Shema Israël, écoute Israël, dans la règle de Saint Benoît, c'est un mot majeur aussi que le mot écoute, et bien sûr dans chacune de nos communautés. Alors, de quelle écoute s'agit-il? Il s'agit bien sûr, premièrement et d'abord, de l'écoute de Dieu. C'est pour cela que le pape François a voulu de manière symbolique, au début de chaque session du synode, que nous vivions un temps de retraite spirituelle avant de nous engager dans la démarche synodale à proprement parler. Nous sommes isolés dans un lieu de retraite, particulièrement avant la première session du synode. Nous avons même quitté l'aula synodale. Alors pour la deuxième session, nous avons vécu une retraite, mais in situ, donc dans l'aula Paul VI. Mais vraiment cette démarche permanente, fondamentale, initiale d'écoute de l'esprit, et cette démarche d'écoute de l'esprit qui ponctuait aussi, vous en avez l'expérience, nos conversations spirituelles, nos temps de discernement spirituel et communautaire, étaient ponctués par des espaces assez longs de silence, de prière bien sûr avec la liturgie des heures, mais pas seulement, en ajoutant aussi à travers des espaces dédiés dans nos moments d'échange, y compris dans les cercles mineurs, des temps de prière vraie, ancrée dans la parole de Dieu et dans l'écoute de quelques intervenants qui étaient chargés, en particulier le père Timothy Radcliffe, mais pas lui seul, de nous accompagner dans cette démarche synodale. Donc l'écoute, vraiment une notion fondamentale. Si on regarde, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà travaillé sur le document final du synode, et si on regarde les occurrences, vous savez maintenant avec des outils informatiques, c'est très facile à faire, le mot écoute revient 49 fois dans ce document du synode, et le mot conversion 25 fois. Donc ce sont vraiment des mots majeurs. Conversion à l'écoute, je pourrais témoigner de cela au sens d'une expérience dont j'ai vécu moi-même. J'en ai témoigné auprès de mes frères et sœurs, y compris dans mon diocèse. Je crois que des gens comme moi, on pourrait parler des évêques, mais on pourrait parler des théologiens qui étaient présents aussi dans notre assemblée synodale, les deux termes n'étant pas exclusifs, on peut aussi être évêque et théologien. Mais on peut aussi être théologien sans être évêque, et évêque sans être théologien. Donc, il y avait parmi nous des enseignants, des gens qui souvent, pas toujours, parce que le pape avait vraiment l'intention de choisir aussi des personnes plus modestes, mais des gens qui souvent ont des responsabilités dans la société, qui sont habitués au débat d'idées, à une certaine dialectique, à la disputatio, vous savez, au sens du débat théologique du Moyen-Âge. Eh bien, le pape nous a invités, surtout pendant le temps de la première session, à ne pas nous lancer tout de suite dans des débats théologiques, mais à prendre le temps de nous connaître, de nous écouter autour de la parole de Dieu partagée, autour de quelques thématiques qui, dans la première session, étaient en quelque sorte des excuses pour entrer dans cette pédagogie et dans la dynamique de l'écoute. Mais moi qui suis un homme qui est invité à s'exprimer souvent, une sorte de professionnel de la parole, nous étions nombreux à être dans cette situation, je crois que j'ai appris à écouter. Parce que j'imagine que certains et certaines d'entre vous, pour de multiples raisons, sont dans des situations d'enseignement. Et quand on est trop souvent dans ces situations-là, on perd l'habitude d'écouter. Et en tout cas, moi, comme évêque, je perds l'habitude d'écouter vraiment, avec une véritable empathie, une véritable envie de comprendre ce qui anime l'autre, de comprendre non seulement ses mots, les phrases qu'il exprime, mais aussi son héritage, son histoire, sa culture. C'est pas rien de se retrouver dans 360 et quelques personnes de cultures très différentes et d'essayer de, quand on entend l'autre, ne pas le juger immédiatement à l'aune de notre propre culture, de notre héritage, de nos idées, de nos idéologies, de notre sensibilité, mais de prendre le temps de l'écouter vraiment. Bien, le défi de la démarche synodale, c'est vraiment le défi de l'écoute. Pour que cette écoute soit possible, parfois cela oblige à aménager l'espace. C'est-à-dire que quand on est dans une configuration qui est une configuration d'amphithéâtre, une configuration de salle de classe, on est typiquement dans une configuration dans laquelle quelqu'un parle qui a autorité, et d'ailleurs le lieu de son autorité est désigné parce que tous les regards et toutes les oreilles convergent vers lui ou vers elle, et donc ceux qui ont préparé le secrétariat du synode à l'invitation du pape, vous avez vu sans doute ces images très marquantes qui ont préparé l'aula conciliaire, nous ont mis par petites tables, 10 ou 12 personnes maximum, parce que si on veut que vraiment l'écoute se vive de manière pas seulement en intention, mais en acte, il faut aussi que nous aménagions notre espace pour que cette écoute soit possible. Alors, il y a différents niveaux d'aménagement d'espace. Bon, vous avez vu, c'est cette aula équipée de petites tables assez nombreuses, plus d'une cinquantaine. Simplement, il y avait la table du secrétariat du synode qui était juste un petit peu surélevée. Mais sur ces tables, ce qui est aussi très notable et qui nous met dans une attitude d'écoute, que vous soyez le cardinal Ouellet, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, théologien, spécialiste de Lubac, ou que vous soyez une petite sœur de la Visitation, la plus modeste, mais aucune n'est modeste, que vous soyez une petite sœur de la Visitation, eh bien finalement, la parole de chacun et de chacune a la même valeur. Et ça, c'est un vrai changement de culture. Et ça a été un vrai changement de culture pour nous, y compris, je cite le cardinal Ouellet, parce que c'est un homme que je connais depuis un petit peu de temps, sympathique, et j'étais plusieurs fois proche de lui sur des tables de partage, mais il était quand même assez étonné quand on était invité chacun et chacune, et donc lui aussi, à une prise de parole qui était limitée dans le temps de 2 minutes et demie ou de 3 minutes. On lui dit, à lui, le cardinal Ouellet, votre temps de parole est terminé, c'est fini. Et donc pour un certain nombre d'entre nous, et je me mets dans ce champ-là, bien c'est pas si simple d'accepter de penser que ma parole, je suis quand même l'évêque de Grenoble, c'est pas n'importe qui, de penser que ma parole n'a pas plus de valeur que la petite sœur égyptienne qui est à côté de moi et qui parle difficilement l'italien, qui est dans un pays dans lequel les chrétiens sont ultra minoritaires. Donc, se convertir à cette logique-là. Nous sommes tous, par le baptême, unis au Christ, et la théologie baptismale est un des axes majeurs de la réflexion synodale. Et notre égale dignité repose sur la dignité fondamentale qui marque le chemin de vie chrétienne, qui est celle de notre baptême. Le baptême fait de nous, chacun et chacune d'entre nous, des prêtres, des prophètes et des rois. Nous sommes porteurs du sacerdoce baptismal, fait de chacun et de chacune d'entre nous d'autres Christ pour nos frères et sœurs en humanité. Et donc nous sommes établis dans cette égalité fondamentale qui est celle du baptême. Et ça semble une évidence comme cela, mais souvent dans la vie de nos églises, ce n'était pas autant que cela une évidence. Que la parole de tout baptisé, habité par l'Esprit Saint, puisse et gagne à être entendue pour éclairer un discernement spirituel commun. Je cite simplement une anecdote, parce que ça a été relevé dans les débats du synodaux. Souvent le matin, au moment de se retrouver, on en profitait pour se donner des nouvelles de l'actualité internationale, parce que d'ailleurs c'était assez facile, parce qu'effectivement, comme le monde entier était représenté, les théâtres de guerre, que ce soit l'Ukraine, que ce soit Gaza, le pape téléphonait presque chaque jour au curé catholique de Gaza. Et puis, on avait organisé aussi une collecte pour aider les chrétiens de Gaza à exercer la solidarité avec le peuple. Ils sont solidaires et qui est encore malheureusement parfois sous les bombardements et était en pénurie alimentaire. Donc le matin, on se donnait des nouvelles du monde et puis on prenait le temps de commémorer l'anniversaire de tel ou tel anniversaire de naissance et souvent anniversaire d'ordination pour les évêques. Et à un certain moment, l'un d'entre nous, je ne dirais pas qui, dit « Mais on passe notre temps pendant toute cette démarche synodale à dire que l'événement majeur de nos vies humaines et de nos vies chrétiennes est notre baptême. Pourquoi est-ce qu'on ne célébrerait pas le matin l'anniversaire de notre baptême en disant « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de baptême du père un tel ou de sœur machin chose » de monsieur un tel ou de madame un tel. Vous voyez, on voit bien que dans nos pratiques, finalement, le baptême, c'était devenu pas si fondamental que ça. Est-ce que nous, comme religieux, religieuses, évidemment, on célèbre l'anniversaire de nos professions solennelles, et c'est légitime. Est-ce qu'on célèbre l'anniversaire de notre baptême? Je vous pose la question, mais ça. Donc, voilà, peut-être une bonne idée pour mettre en place concrètement la réalité synodale dans la vie de notre Église. Alors évidemment, chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous, même s'il y a des exceptions, nous avons été baptisés enfants et on n'avait pas conscience à ce moment-là de ce qui se passait pour nous. Mais dimanche dernier, nous avons vécu l'appel décisif pour 200 catéchumènes de notre diocèse. Les catéchumènes adultes qui sont en face de nous, ils comprennent spontanément que ce baptême il se prépare à célébrer avec toute l'Église pendant la nuit pascale, sera un événement majeur de leur existence. Et est un événement majeur de leur existence. Alors après, sur la base de cette dignité fondamentale, baptismale, bien sûr, il y a des charismes et des ministères différents. Bien sûr que ce n'est pas rien d'être appelé par le Seigneur à vivre des conseils évangéliques dans la vie religieuse. Ce n'est pas rien d'être appelé par le Seigneur à recevoir une ordination qui fait de nous un diacre, un prêtre ou un évêque. Donc, ces événements sont des événements importants, mais n'oublions jamais, et c'est vraiment majeur dans la démarche synodale, et c'est le fait de comprendre cela, mais pas seulement avec notre intelligence, avec aussi nos habitudes de vie, qui nous aidera à accorder une écoute véritable à la parole de chacun et de chacune, qui a une valeur en elle-même, parce que chacun et chacune est par le baptême, porteur de l'Esprit, fils du Père, frère du Christ, frère ou sœur du Christ, prêtre, prophète et roi. Donc là, il y a vraiment un axe fondamental. Donc quand on nous parle d'écoute, dans le document du synode, j'ai relevé quelques paragraphes. Il est question de l'écoute de la parole de l'Évangile et la communion entre les frères et les sœurs s'ancre dans cette écoute commune de la parole de l'Évangile, mais il est aussi question de l'écoute de la clameur des pauvres. Ça revient très souvent dans le magistère du pape François, mais aussi dans la dynamique synodale. Et l'écoute aussi de la clameur de la terre. Laudato si, on va célébrer bientôt le 10e anniversaire de Laudato si. Donc cette écoute vraiment de la clameur des pauvres, de la clameur de la terre, de la parole de l'Évangile. Alors, la clameur des pauvres, pourquoi faut-il écouter particulièrement les pauvres? Nous avons entendu l'Évangile hier matin, Matthieu, hier matin ou hier soir, ça dépend à quelle heure vous avez célébré, Matthieu 25, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc écoutez les pauvres parce qu'il faut les considérer comme des agents de l'évangélisation, comme des agents de l'évangélisation. Si on n'écoute pas les plus petits, les plus fragiles, ce que fait le Seigneur à longueur d'évangile, finalement, on risque de passer à côté des évolutions qui sont nécessaires, que l'agent amène au nécessaire pour la vie de notre Église, parce qu'on se prive de lumières tout à fait extraordinaires qui nous viennent d'eux, qui peuvent nous venir d'eux, si on prend vraiment le temps de les écouter. Il y a un sociologue, qui est décédé maintenant, Pierre Bourdieu, un sociologue français, qui disait que les pauvres, les petits n'ont le choix qu'entre se taire ou être parlé. C'est-à-dire se taire, une parole qui n'a pas de valeur, n'est pas écoutée, une parole qui est considérée comme non qualifiée, ou être parlé, ça veut dire que quelqu'un va parler à leur place. Mais le défi de la synodalité, c'est vraiment à travers certaines expérimentations dont nous vivons, par exemple des groupes, là c'est parole des groupes, prendre le temps vraiment d'écouter chacun et chacun. Quand on dit les pauvres, alors bien sûr, spontanément, on pense à ceux et celles qui sont marginalisés dans notre société, parce que ce sont des migrants, parce que ce sont des gens qui sont dans toutes sortes de galères personnelles et familiales, qui sont dans la dépendance, qui sont sans abri, qui sont en prison, qui sont touchés par la maladie grave ou le handicap. Mais dans chacune de nos communautés, il y a toujours une personne plus petite, plus fragile, sans que nous nous en rendions compte parfois, à laquelle nous ne prêtons pas attention, dont on estime que la parole n'a pas de grande importance. Comment dans la vie de chacune de nos communautés, finalement, on redonne la parole à une personne qui peut-être se disait ça hier. Hier, je participais à un rassemblement de prêtres dans le Voisin. qui se retrouve pour une compétition de ski, le challenge de la vie. Donc c'est un peu un autre contexte qu'aujourd'hui. Et on se disait, mais on a tendance à considérer que la parole d'une personne âgée, très âgée, qui répète toujours la même chose, parce que peut-être qu'il y a un peu de vieillissement cérébral qui est venu se greffer là-dessus, et bien finalement, il ne gagne pas à être écouté. Si Saint-Jean, nous dit-on, à la fin de sa vie, ne cessait de répéter toujours la même chose qu'il a répété à longueur d'évangiles et de lettres, Dieu est d'amour, Dieu est d'amour. Et finalement, même dans ça, peut-être sa sénilité, je ne sais pas, mais il disait l'essentiel. Il disait un résumé tout à fait extraordinaire, tout à fait synthétique de l'évangile. Donc, écoutez, y compris dans nos communautés, ceux et celles qui peut-être ne seront jamais élus supérieurs général, mais d'ailleurs ce n'est pas forcément une place à envier, mais qui à un certain moment sont dépositaires de la grâce du Seigneur et de l'Évangile. Écoutez des postulants, des novices, des gens qui peut-être même ne resteront pas dans la communauté, au passage, mais qui viennent nous apporter une parole du monde qui peut un peu nous déplacer, qui peut venir du Seigneur. Et ça, c'est vraiment typique de la démarche synodale. Donc il faut considérer les autres comme des agents d'évangélisation, les pauvres en particulier. Donc ça, c'est le paragraphe 19. Si on prend le paragraphe 28e, une écoute réciproque, s'écouter et attendre d'être écouté par l'autre aussi. Écoutez le monde, paragraphe 48e. Le monde a des choses à nous dire au nom du Seigneur aussi. Et l'Esprit Saint, à travers les semences du Verbe, les germes de l'Esprit, travaille les cultures de notre monde. Tout n'est pas canonisé, bien sûr, dans la culture contemporaine. Mais il y a quand même des choses qui sont source d'émerveillement. Il y a des déplacements que nous pouvons opérer, y compris en Église, à cause de personnes qui pointent du doigt des choses et légitimement que nous devrions faire évoluer, des personnes qui ne partagent pas notre foi, qui parfois ne partagent aucune foi, mais qui peuvent avoir une parole ou un esprit éclairé du Seigneur. Donc l'écoute du monde, jusqu'à quel point? Et là aussi, on a besoin d'un discernement spirituel. L'écoute du réel, c'est au paragraphe 58e, continue à avoir les pieds sur terre. C'est beau dire que je choisis aujourd'hui de sortir sans parapluie, mais c'est peut-être plus raisonnable quand même de le regarder par la fenêtre et de dire « vaut mieux en prendre un ». Et puis aussi, et ça arrive plus tard, l'écoute des théologiens. Je m'arrête un instant là-dessus parce que ça a été particulièrement vrai à la première session du synode. Il y a sans doute parmi vous des théologiennes, vous l'êtes toutes d'ailleurs, plus ou moins, parce qu'on est tous à étudier, ne serait-ce qu'en lisant la parole de Dieu, en méditant, en la méditant, à étudier les mystères de Dieu. Mais ça a été difficile la première session du synode pour les théologiens, parce qu'ils trouvaient que, sur des questions quand même sérieuses, on ne leur demandait pas assez leur avis. Alors qu'on demandait l'avis d'un tel genre incompétent. Et eux, quand même, bardés de leur diplôme, habitués au débat théologique, se sentaient un petit peu marginalisés. Eh bien, je crois que, et on s'est vraiment employé à le faire, en particulier pendant la deuxième session du synode, on a demandé régulièrement des théologiens de nous faire un point sur les enjeux de ce qui était en train d'être débattu. Mais les théologiens avaient besoin d'entendre aussi, qu'à un certain moment, la parole de vérité, elle pouvait venir de cette petite sœur du Venezuela qui avait été désigné par son assemblée épiscopale pour représenter son pays et représenter la vie religieuse. Cette petite sœur du Venezuela, qui n'a pas fait beaucoup d'études de théologie, mais qui rumine chaque jour, comme nous tous et nous toutes, la parole de Dieu, eh bien, c'est elle qui pouvait, au final, avoir la parole de vérité qui allait nous faire sortir du tunnel, sortir d'une impasse. Donc, les théologiens avaient besoin d'entendre ça. Donc, bien sûr, ce n'est pas inutile de faire des études de théologie, et on n'est pas dans un anti-intellectualisme. C'est même indispensable de faire des études de théologie. Mais, souvenez-vous de ce dialogue du curé d'Ars avec ce brave homme. Il interroge en lui demandant, mais est-ce qu'il fait là tous les jours dans son église à rester là en silence sans rien dire? Il m'avise et je l'avise. Il me regarde et je le regarde. Cet homme très simple, paysan, avait dit l'essentiel. Donc vraiment, les théologiens, ça a été difficile pour eux, mais je crois que, comme les évêques, ils ont vécu aussi vraiment une démarche de conversion, d'écoute. On l'espère comme toute notre Église, parce que une des questions qui me taraude, c'est que je me dis que pour vivre cette conversion intérieure, parce que c'est vraiment une conversion à l'écoute, il nous a fallu 2 mois entiers. Et encore, nous ne sommes pas totalement convertis, encore du travail à faire. Mais ceux qui n'ont pas eu la grâce de vivre cette expérience synodale, dans nos églises diocésaines, dans nos communautés religieuses, dans notre presbytérium, comment les engager dans cette dynamique, dans cette conversion qu'on a expérimentée avec tous les éléments, toutes les dimensions de notre personne, gagner l'adhésion de l'ensemble du peuple de Dieu, de l'ensemble de nos églises locales et particulières. Là, c'est le vrai défi du poste synode. Donc, qui sommes-nous, nous quatre petits évêques de France, avec Anne Ferrand, et puis on peut ajouter le cardinal Erwin, qui était là aussi au titre de son cardinalat, et puis quelques théologiens français, ou le frère Aloïs de Thésée. Finalement, on est un tout petit nombre pour engager dans cette dynamique de conversion que nous avons des temps d'une certaine assaise. Vous savez, écoutez, c'est bien placé pour le savoir, parce que vous êtes en train de m'écouter. Là. C'est une démarche ascétique que d'écouter les autres. Il faut prendre sur soi et vous dire, bon, je ne vais pas m'endormir, je vais écouter vraiment, d'une écoute vraiment attentive, empathique. C'est une vraie conversion qui demande une vraie ascèse. Alors, comment emmener toutes nos communautés, toutes nos églises? C'est le défi qui s'ouvre à nous. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas seuls, on n'est pas livrés à nos propres forces. Nous comptons vraiment sur la grâce de Dieu et on voit bien qu'elle travaille. Mais c'est vraiment un vrai défi pour nous de comprendre comment nous allons faire pour transmettre cette dynamique synodale. Et puis, au final, mais c'est peut-être le plus important, le numéro 84e, on y reviendra sans doute quand nous aborderons la question de la dynamique de la conversation spirituelle. Le numéro 84e du document final du synode, c'est peut-être le plus concret. Et il nous invite à une écoute attentive et respectueuse de la parole de l'autre. Là aussi, quelle conversion! Une écoute attentive et respectueuse de la parole de l'autre. C'est un défi, et c'est le défi de nos vies familiales, communautaires, ecclésiales, paroissiales, diocésaines. On en parle souvent, mais le fait-on vraiment? Le fait-on vraiment? Ou le fait-on suffisamment? Le constat, et c'est pour cela que le pape a voulu nous engager dans cette démarche synodale, le constat, c'est que sans doute, nous ne le faisons pas suffisamment. Je vous livrerai bien cette petite phrase de Michel Serres, qui dit ceci: c'est tellement rare C'est tellement improbable, c'est tellement miraculeux, que c'est peut-être ça la civilisation et la culture, de rencontrer quelqu'un qui écoute. De rencontrer quelqu'un qui écoute. Il y a un vrai défi. Et pour en faire allusion, bien sûr, à notre actualité contemporaine et à ces tractations en vue d'essayer de trouver des chemins de paix pour le monde, est-ce qu'on a dans notre monde, dans la culture contemporaine, médiatique et politique, cet habitus de l'écoute dans ce monde qui est vraiment inquiétant? Sans doute pas, mais sans doute que nous, comme chrétiens, comme disciples de Jésus, comme enfants de Dieu, enfants d'Israël et enfants de l'Église, nous avons à être des témoins de cette écoute. Pour le dire autrement, il y a cette citation d'Ernest Hemingway qui disait « Il faut 2 ans pour apprendre à parler, à peu près, mais qui parle plus tôt, d'autres qui parlent plus tard. Il faut 50 ans pour apprendre à se taire. » Parce que ça a l'air tout bête, mais pour écouter, il faut déjà se taire. Et se taire encore physiquement, pas toujours aussi simple, mais c'est assez bien faire, mais taire aussi toutes ces paroles intérieures. Vous savez, quand on écoute l'autre sans l'écouter vraiment, mais qu'on prépare ce qu'on a à dire soi-même. Et là aussi, très concrètement, et en essayant justement de rester humble et modeste, vous savez, quand on nous livrait une question à aborder, en cercle mineur, on avait 10 ou 12 personnes, on était invités, souvent tard le soir, c'était un peu tardu d'ailleurs, à préparer notre prise de parole, parce qu'il fallait qu'elle soit normée dans le temps, et puis aller essayer de dire des choses qui pouvaient être utiles à la réflexion commune. Donc assez souvent, je me suis surpris, en ayant préparé mon texte, à ne pas vraiment écouter les contributions des autres, mais à relire intérieurement mon texte, et à corriger quelques petites choses. Vous voyez, l'écoute vraie et attentive de l'autre, c'est quand même pas si simple. C'est quand même pas si simple. Je m'en confesse devant vous, j'espère que vous donnerez la solution.
Nous n'avons pas de pouvoir.
La solution fraternelle, tu vois, ministérielle. Donc vraiment, cette démarche de l'écoute, et peut-être que je vous laisserai un ou deux textes servir à cela. L'écoute, on pourrait dire, c'est l'art du gouvernement. Parce qu'en dernière analyse, nos réalités ecclésiales, paroissiales, communautaires, le pape l'a répété plusieurs fois, on n'est pas en train de réinventer une sorte de logique démocratique ou participative, faisant que finalement, on est dans la congestion et puis on va supprimer dans nos communautés les titres supérieurs, enfin, toutes les responsabilités à exercer. Bien sûr, nous ne sommes pas dans cette logique-là, parce que fondamentalement, je crois qu'il faut accepter de le dire, au sens du monde, l'Église n'est pas une démocratie. Parce qu'il y a des responsabilités qui sont confiées à un certain nombre d'entre nous et par rapport auxquelles nous ne devons pas nous déchausser, des responsabilités que nous devons assumer. Il y a un gouvernement qu'il faut exercer, mais l'invitation, c'est dans le gouvernement accorder une place vraiment majeure, plus importante, plus fondamentale à l'écoute. Je vous transmettrai un petit article. Il s'intitule « Gouverner revient à saisir toutes les résonances de l'esprit ». Toutes les résonances de l'esprit. Donc le défi de la synodalité, d'un gouvernement synodal, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à toutes ces résonances, perspectives, résonances de l'esprit qui sont perceptibles dans chaque baptisé. Une supérieure d'une communauté, comme le sont vos communautés, a besoin d'essayer de saisir les résonances du travail de l'esprit dans chacune des personnes membres de sa communauté. Et plus largement encore, peut-être de chaque homme, les résonances de l'esprit chez ces personnes qui parfois sont des personnes qui passent dans notre monastère parce qu'elles viennent nous donner un coup de main, ou elles sont à la cuisine, ou sont des artisans qui viennent faire des travaux, et qui nous disent quelque chose qui peut vraiment venir de l'esprit. Donc comment effectuer un travail de discernement permettant de s'assurer le plus possible que telle expression de la foi, telle initiative missionnaire, telle évolution dans la vie de notre communauté, telle manière de conduire ma vie individuelle, notre vie communautaire, s'assurer que tout cela soit ancré dans une écoute véritable de l'esprit, que nous écoutons dans notre lecture de la parole de Dieu, dans notre manière de nous nourrir des sacrements, de l'adoration eucharistique, et que nous écoutons aussi dans l'attention aux frères et sœurs, et que nous écoutons aussi dans l'attention aux événements qui marquent la vie du monde. Alors, les dimensions, dans la grande tradition d'Église, on est invité à tenir ensemble plusieurs dimensions pour l'écoute de l'esprit. Alors bien sûr, notre vie spirituelle personnelle, souvent accompagnée, notre accompagnateur, accompagnatrice spirituelle, tu n'aimes aussi au discernement, mais aussi le discernement communautaire ou ecclésial. Comment le temps de la synodalité est un temps pour revisiter notre manière de vivre nos chapitres, en quelle mesure il pourrait, de manière renouvelée, de manière plus vigilante, être ancré dans une véritable écoute. Donc il y a aussi le discernement des évêques réunis en collège. Et puis enfin, il y a la grâce du discernement confiée aux successeurs de Pierre. Donc il y a le discernement individuel, le discernement communautaire, le discernement du collège des évêques, c'est ce qu'on appelle le synode des évêques, qui maintenant est élargi à une belle représentation du peuple de Dieu. Et puis, il y a le discernement de la primauté, qui est celle de Pierre. J'avais été assez marqué, et là ça dit quelque chose aussi de cette démarche synodale qui n'est pas tout à fait une démarche démocratique au sens du monde. Quand nous étions en visite à Divina avec les évêques de France, vous savez que les évêques de chaque église locale, de chaque pays, sont invités à aller rencontrer le pape et les responsables des dicastères. Autrefois, on appelait ça une visite quinquennale parce que c'était tous les 5 ans. Maintenant, ça s'est un peu espacé. C'est parfois tous les 8 ans. Et donc, on va faire le point avec le pape et on demandait au pape de nous partager un peu son expérience quand on était là-bas avec les évêques français. C'était pas très loin de la fin du synode sur l'Amazonie qui avait ouvert des pistes. La réflexion synodale avait ouvert des pistes sur la possibilité d'ordonner des hommes, des virils probatifs, des hommes mariés qui auraient pu faire pour des communautés éloignées. Des prêtres pouvant permettre de donner accès à l'Eucharistie à des membres du peuple de Dieu, des baptisés qui en sont souvent éloignés parce que les prêtres viennent très peu souvent. Alors le pape nous avait partagé cela, et je vous dis cela parce que ça illustre bien ce qu'est le charisme de Pierre, du successeur de Pierre, ce qu'est la primauté et ce qu'est la responsabilité de celui ou celle qui reçoit la charge du gouvernement. Donc le pape disait, J'ai vraiment pris le temps d'écouter l'Esprit à travers tous les membres du synode qui se sont exprimés, y compris sur cette question de l'ordination possible de Vieri Probati. Il disait, si j'avais suivi la majorité, dans une logique démocratique, des préconisations de ce synode sur l'Amazonie, j'aurais choisi d'ordonner des hommes mariés comme prêtres pour le bien de l'accès à l'Eucharistie des membres du peuple de Dieu. Il ajoute, juste après, face à cette décision à prendre éventuellement, je n'éprouvais pas de consolation intérieure. Avec consolation des orations, c'est ce que les Ignatiennes, ça dit des choses, et c'est un jésuite, le pape. Donc, à un certain moment, il s'est dit, le Seigneur, m'ayant désigné par toutes les médiations qui sont celles de l'Église comme successeur de Pierre, je ne peux pas me défausser par rapport à cette responsabilité qui m'a été confiée. Et même si la majorité des opinions du synode aurait pu me conduire à prendre cette décision, en conscience, aujourd'hui, je ne peux pas la faire. Et il ajoutait encore, il y a peut-être d'autres pistes à explorer avant un jour, peut-être, on prenne cette décision. Donc vous voyez, il a vraiment été dans cette démarche d'écoute la plus large possible, et une écoute vraie et attentive, mais en dernière analyse, il exerce sa responsabilité, ne se défausse pas par rapport à sa responsabilité. Donc vous voyez, ça dit quelque chose d'une logique de discernement spirituel communautaire qui n'est pas simplement une manière de suivre la majorité des amis et des gens qui ont été appelés à s'exprimer. Parfois, je pense que le pape, comme le Christ lui-même, est capable de cela. Le pape peut ne pas suivre l'avis de la majorité des théologiens, mais suivre l'avis de cette personne modeste, pauvre, entre guillemets, qui lui aura dit qu'il faut faire ça. Parce que selon lui, l'esprit a travaillé plus directement à travers cette personne-là qu'à travers. J'ai pas de compte à régler avec les théologiens, mais. Vous n'allez pas croire ça, je suis moi-même d'une certaine manière de théologien.
Bien aussi.
Donc, mais vous voyez, c'est pour aider à comprendre la logique dans laquelle on est. Donc, vraiment, gouverner revient à mettre tout en œuvre pour écouter les résonances de l'esprit dans nos communautés, dans le monde, dans le réel, et évidemment dans notre vie spirituelle aussi, en dernière analyse, dans notre conscience. Suivre sa conscience, c'est toujours l'instance ultime. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle cela de manière très précise. Alors, un aspect encore, et c'est lié là aussi à l'expérience synodale, particulièrement au cours de la première session du synode, au bout de 3 semaines, on commençait à trouver le temps long. Surtout qu'on avait l'impression de ne pas déboucher sur des choses concrètes et donc d'être encore dans des exercices. Alors évidemment, pour les Ignatiens, les exercices, c'est important. Mais l'écoute, ça prend du temps. Évidemment, parfois, on est tenté de se dire, bon, voilà, évidemment, je pourrais consulter la communauté, mais ça va encore repousser la décision au calendrier grec. Mais je crois qu'il faut revoir notre relation au temps en termes de conversion. Je vous parlais tout à l'heure de conversion à l'écoute. Je crois qu'on a vécu aussi une conversion, notre relation au temps. Si on veut faire vraiment le travail de l'esprit, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, il faut parfois repousser la décision à prendre, l'écriture des orientations pastorales, le choix qu'on a posé, se disant, mais je n'ai pas mûr dans mon esprit, ce n'est pas mûr non plus pour mes collaborateurs. Je risque de prendre une décision hâtive, pour laquelle j'aurais du mal à gagner l'adhésion. Donc sans doute faut-il mieux différer. Donc on a pris la mesure dans notre expérience synodale, assez longue, de 2 mois, c'était fructueux de prendre ce temps-là. Je prends un simple exemple, vous savez, si vous avez suivi un petit peu l'actualité du synode, tous les paragraphes qui ont été présentés au vote ont été approuvés par l'Assemblée synodale, à plus des 2/3, mais certains ont été moins bien votés que d'autres. Certains ont été votés, certains paragraphes, on a voté paragraphe par paragraphe. Donc ça a été un peu long. Enfin, si on commençait à trouver le temps long. Mais parmi les paragraphes qui ont été les moins bien votés, même s'ils ont été votés majoritairement, une majorité de plus des 2/3 par l'Assemblée, il y a le paragraphe sur la place des femmes dans l'Église. Alors, c'est peut-être pas le paragraphe en lui-même, alors là, il y avait sans doute un peu de confusion, y compris dans les commentaires, parce que dans ce paragraphe sur la place des femmes dans l'Église, il y avait une ou deux phrases sur la réflexion qui restait ouverte sur la possibilité de l'ordination des femmes comme diacres. Donc je pense qu'une bonne partie ont rejeté ce paragraphe à cause de cette incise-là, mais pas, et sans doute pas opposé au fait qu'on nomme Sœur Simone à Bourville comme préfète du dicastère pour la vie consacrée. Donc je pense que si on avait fait un paragraphe sur plus de femmes, plus de place accordée aux femmes dans des structures de gouvernement d'Église, là ça aurait été voté presque à l'unanimité. Par contre, si on avait isolé un paragraphe sur la question de la possibilité restée ouverte, c'est pas tranché, hein, mais l'idée qu'on continue à réfléchir sur la possibilité d'ordonner des femmes diacres, là, ce paragraphe aurait eu peut-être une approbation, puisqu'il s'agissait d'inviter à continuer à réfléchir, mais pas une approbation à l'unanimité. Donc, c'est dire que si on avait été trop tôt dans le vote de l'ensemble de ces paragraphes, je pense qu'on n'aurait pas eu une majorité de votes positifs pour tous les paragraphes du document final. C'est parce qu'on a pris le temps de s'écouter, de se réécouter, d'amender. On pouvait proposer des amendements oralement, on pouvait proposer des amendements par écrit. Le secrétariat du synode s'est forcé de les intégrer. Bien sûr, quand il y a des amendements, il y en a qui sont contradictoires, donc on ne peut pas tout intégrer. Mais tout ce travail qui pouvait nous apparaître certains soirs, on était un peu pressé de rentrer, nous apparaître un peu lancinant, finalement est au service de la commune, est au service de la réception de ce document du magistère. Le pape l'a retenu donc, immédiatement, dès la fin du synode, comme étant un des éléments de l'exercice de son magistère, parce que justement il y avait ce travail communionnel qui a vraiment été exercé et pour lequel on a eu besoin de se convertir à une autre relation au temps. Donc conversion à l'écoute, conversion à une autre relation au temps. Voilà ce sur quoi j'insisterai principalement. Alors, il est 15h56. J'ai déjà parlé trop longtemps. Je vous communiquerai peut-être par votre intermédiaire un ou deux textes. Ce texte qui s'intitule « Gouverner revient à saisir toutes les résonances de l'esprit ». Je ne crois pas qu'il soit publié encore, il sera publié beaucoup, il sera publié bientôt. Et il y a un petit qui est très bien fait, le frère Aloïs de Tézé, qui était invité au synode, a fait un petit valet-méco, peut-être que l'avez-vous déjà, une sorte de résumé de la démarche synodale, qui est très intéressant. Et puis, il y a peut-être un autre texte, mais celui-là, vous l'avez peut-être déjà eu. C'est un texte que j'avais publié dans la Nouvelle Revue Théologique, une église missionnaire par nature est donc synodale. Vous l'avez, je pense, celui-là, parce qu'il avait été député par la Nouvelle Revue Théologique. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute.
Merci à vous.
Peut-être qu'on peut, pour conclure, parce qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui, je ne crois pas. Vous avez un mot pour conclure, monsieur, si je vous passe la parole.
Alors, comme il a été entendu avec Jean-Michel Rondeau, juste un petit mot pour terminer. Bien sûr, un grand merci au Père, notre Père évêque, qui est devenu peut-être un peu aussi, un petit peu le Père évêque de toutes les visitations, sans du tout mettre un embargo sur les évêques locaux, bien au contraire. Alors, rendez-vous à la prochaine visioconférence avec Mgr Richel, qui aura lieu le 22 avril, où il nous initiera à la conversation spirituelle qui se dit davantage conversation dans l'Esprit Saint. Et il nous invitera, je nous mets déjà en appétit, à l'expérimenter dans nos différents lieux, différents moyens qui nous sont propres de vivre la synodalité. C'est tout un ensemble de rencontres, de réunions, de chapitres qui sont propres à notre vie monastique. Notre évêque a reçu tout un petit document signalant ces différentes opportunités. Et il y a deux opportunités en ce moment de vivre cette expérience de conversation dans l'Esprit Saint, c'est le travail qui nous est envoyé pour la réforme des normes juridiques et puis bien sûr la grande préparation à l'Assemblée Générale qui rejoint chacune de nos communautés. Voilà, maintenant à Jean-Michel.
Oh, mais ça va être très rapide. Bon, déjà, merci ma sœur, merci Monseigneur Echen pour ce témoignage. Merci à toutes les sœurs pour cette écoute, vraiment dans l'esprit, remarquable. Et comme disait donc Saint-Marie-Christophe, rendez-vous le 22 avril, même heure, 15h, pour des explications mises en pratique, donc de la conversation dans l'esprit, ou en l'esprit. Merci à tous, bonne fin de journée à toutes.
Donc peut-être juste se confier à la Vierge Marie qui est maîtresse de disponibilité à l'action de l'Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Seigneur, vous bénisse sur vos chemins de carême, Père.